Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
L'invité, c'est Gilles Babinet. Bonsoir, Gilles.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, tu viens de sortir cet ouvrage. Enfin, tu viens. Non, il est sorti. Enfin, il y a quelques jours. Ça s'appelle Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat. C'est aux éditions Audi Jacob. Alors, je vous le conseille parce que justement, on dénigre tellement l'intelligence artificielle pour son empreinte carbone. On en a encore parlé tout à l'heure avec nos débriefeurs. Eh bien, l'IA, ça peut être aussi au service des défis environnementaux. Et justement, c'est ce que tu cherches à expliquer dans cet ouvrage, comment cette IA décrit, alors qu'il nous apporte tout un tas d'avantages, mais qui consomme aussi beaucoup. Il y a cette IA, elle peut se mettre au service des recherches en IA. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que tu réponds à Sam Altman, là, je voyais, qui évoque le développement d'un data center dans la consommation de 5 gigawatts et qui vaudrait à un dixième de la totalité de la production électrique nucléaire française?
Ouais. Non, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et effectivement, il y a un déferlement de consommation qui apparaît avec l'inférence, mais aussi d'ailleurs l'apprentissage. Mais ce que je répondrais, c'est que je suis un peu plus vieux que lui. Et moi, j'avais un ordinateur qui, dans les années 90, consommait 415 watts pour une puissance de calcul que j'ai calculé l'autre jour, qui était plusieurs, quasiment millions de fois inférieure à celle de mon smartphone d'aujourd'hui.
Donc l'histoire informatique a fait qu'on a eu plus de puissance et qu'on consomme moins.
Voilà, exactement. Et au-delà de ça, que les architectures telles qu'elles sont aujourd'hui décrites, elles sont extrêmement peu efficaces, en fait. Et donc, on va avoir des améliorations de ces architectures, on va avoir de la loi de Moore qui va s'exprimer, etc. Et je suis assez convaincu que l'une des raisons qui va faire que ça va beaucoup s'améliorer, c'est qu'on va devoir embarquer des modèles d'intelligence artificielle dans le smartphone, et par définition, ça peut pas consommer beaucoup.
Et justement, moi, c'est souvent ce que je dis, parce que moi, quand avant d'être journaliste, j'étais ingénieur, je développais, j'avais fait un projet sur de l'embarquer, et de l'embarquer, c'était ça. Le problème, c'est qu'il fallait mettre plein de choses qui sur un tout petit truc qui devait consommer très peu. Et là, on va y arriver. Mais est-ce que c'est la seule réponse qu'on peut apporter en disant, mais vous allez voir ce qu'on a fait. L'informatique, beaucoup plus de puissance, mais beaucoup moins de consommation. Mais tu l'as dit, il faut vraiment revoir, parce qu'on sent que même les Nvidia, ils sont en train de réfléchir sur des nouvelles architectures de composants. Enfin, il faut vraiment réfléchir, pivoter un peu de ce côté-là.
Au moins, chaque semaine, il y a une annonce majeure qui a une incidence très très forte sur la consommation. Un jour, c'est effectivement les nouvelles annonces de Nvidia. Le lendemain, c'est l'annonce de nouveaux modèles. Tout cela fait que on a quand même des gains de performance qui sont très très importants. Je pense que, franchement, en nombre de tokens produits, l'efficacité en l'espace de un trimestre, c'est un facteur 50 à 100.
Oui.
Je ne parle pas d'une année, je parle d'un trimestre. C'est très très surprenant.
Et alors qu'est-ce que tu as cherché à expliquer dans ce livre là parce que alors on parle de justement on donne des cas concrets dans l'agriculture, dans les transports, tu as voulu dire lisez, c'est ce que je vous conseille de lire bien entendu, mais de démontrer que cette IA elle peut servir justement j'aimais bien l'exemple dans l'agriculture justement.
Ouais. Alors ça fait 3-4 ans que je m'intéresse beaucoup à ce sujet. Je donne notamment un cours à HEC qui s'appelle Machine Learning and Environment, Regulation and Innovation. L'observation que je fais depuis un certain temps, c'est que les problèmes d'environnement, c'est des problèmes qui sont très très complexes, généralement très multifactoriels. Et la technologie qui gère bien les systèmes multifactoriels, c'est l'intelligence artificielle. C'est super vrai dans l'agriculture, c'est hyper vrai dans la supply chain, c'est super vrai dans l'énergie, c'est super vrai dans le transport. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu le tour du monde de ce qui peut exister en matière de solutions, même à un stade très préliminaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore des start-up, et d'essayer de regarder la perspective que ça peut avoir dans un horizon peut-être à 5 à 10 ans.
Oui.
J'ai trouvé ça assez impressionnant.
Parce que je reviens sur mon exemple de l'agriculture. Je crois qu'à un moment, tu dis, l'agriculteur, lui, il a des tas de données, mais finalement...
Ouais, plusieurs milliers de temps.
Comme nous tous, il a ses capacités, ses capacités à lui, ses capacités de son ordinateur, et justement, il s'intéresse à très peu de données. Et l'IA pourrait lui permettre de dire, si on utilisait un peu davantage ces data, ça te permettrait d'économiser de l'eau, d'économiser l'électricité.
Ouais. Un agriculteur, c'est sur une saison, c'est plusieurs milliers de paramètres à gérer. Il va en optimiser une vingtaine, une trentaine. Ouais. Voilà, donc c'est Avant, c'est les marchés mondiaux, c'est les futurs, c'est les prédictions de long terme de météo, etc. Mais c'est aussi le coût de l'énergie, le coût de la maintenance. Pendant, c'est qu'est-ce que je mets comme intrant, qu'est-ce que je mets comme eau, qu'est-ce que je fais comme traitement mécanique, etc. Après, quand est-ce que je récolte, quand est-ce que je stocke. Mais voilà, il y a plein de paramètres. Ils sont très sous-optimisés. Les modélisations qui ont été faites en utilisant l'IA arrivent à augmenter la productivité et quasiment abattre à zéro les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même spectaculaire.
Oui, parce que souvent lorsqu'on dit voilà pour alors une fois qu'on a son cas d'usage en tête hein, dans quelques domaines que l'on soit, alors il faut les compétences pour mettre tout ça en place, il faut la puissance de calcul, il faut les data, et puis ensuite ben il y a ce côté coût et là je trouve que c'est là où cet ouvrage aussi répond aussi hein, ce livre répond à ce côté coût performance coût performance et performance environnementale aussi. C'est ce que tu expliques hein, dans ce livre. Hein.
Bon, l'hypothèse que je fais, mais je voilà, c'est une hypothèse, hein, c'est que ça va devenir l'un des principaux facteurs de décarbonation en général. Et il y a quelques cas qui sont assez évidents. Je pense que le cas des transports, qui sont des infrastructures à taux de charge très faible, on s'aperçoit que si on met de l'intelligence artificielle dedans, ça fonctionne mieux. Je veux dire, je prends une voiture, parlons du véhicule autonome de minute, mais un véhicule, c'est utilisé 7% du temps. Il y a 1,3 passagers sur 5 places, en moyenne, en Europe. Voilà, c'est absurde. Ouais. Et ça pèse 1450 tonnes, désormais, en moyenne. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc qui dysfonctionne massivement. Dès qu'on commence à repenser le modèle en mettant de l'IA, on a des taux de charge qui passent à 30%. D'ailleurs, je suis pas forcément un fan du personnage, mais celui qui l'a vu avant les autres, c'est Elon Musk.
Oui. On l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il a parlé là aujourd'hui à ses investisseurs en disant le robotaxi, ça reste et ça avait d'ailleurs été dès le départ, il l'avait dit, il continue à le dire.
Et c'est une complexité en matière d'intelligence artificielle incomparablement supérieure à celle des grands LLM. Les grands LLM, malgré tout, c'est des environnements assez cohérents. Là, c'est plein de systèmes très très différents.
Il faut que la voiture revienne au même endroit avec la batterie rechargée.
C'est horrible à faire. J'ai un copain qui a travaillé pendant quelques années chez Waymo et qui disait on n'en finit pas de trouver des nouveaux problèmes qu'il faut traiter les uns derrière les autres.
Dans l'un des sous-chapitres de ce livre, c'est tu parles d'une économie des services.
Oui, c'est-à-dire que tout est en train de se X-iser, on dit, c'est-à-dire de se SaaS-iser, software as a service, c'est-à-dire on n'achète plus, on loue, c'est vrai de la machine-outil, c'est vrai des équipements, mais c'est peut-être aussi vrai du logement demain, c'est-à-dire que je parle par exemple beaucoup du coworking, du co-living, bon, les trucs qui sont extrêmement efficaces, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un grand appartement trois pièces parce que je me suis séparé de ma compagne et une semaine sur deux, j'ai mes enfants qui viennent chez moi. Et voilà, et finalement, je m'occupe d'un très grand espace pour pas grand chose. Et ben, tout ce qui est accessoire, je loue. Donc ça, c'est la ruée vers l'or actuellement aux États-Unis sur le co-living. Donc j'ai une petite chambre. Par contre, j'ai une super salle de sport, j'ai une super salle de ciné, j'ai des chambres d'amis, j'ai des salles à manger, tout ça, et je les accède par mon app. Et en fait, je yalde le prix, c'est-à-dire que le prix est dépendant de la demande, avec des modèles qui sont, entre autres choses, qui reposent sur des systèmes d'intelligence
artificielle. Et du coup, là, on voit tout l'intérêt. Le livre aussi aborde le côté français, justement. Et en quoi c'est une opportunité pour les Français? Alors, on sait qu'on est bon en algorithme, etc., qu'on est plutôt bon en IA, c'est ça le... Alors,
les Français, ils ont deux trucs sur lesquels ils sont... c'est les champions mondiaux, ils s'ignorent là-dessus. C'est l'électricité. On a l'électricité quasiment la plus décarbonée au monde, du fait du nucléaire. Et on a six leaders mondiaux, Sonepar, Rexel, le grand Schneider, Engie, EDF, c'est leader mondial. Enfin, en réalité, le grand n'est pas un leader mondial, mais c'est un des premiers mondiaux. Voilà, mais les autres sont des leaders mondiaux. Et au-delà de ça, dans le domaine de l'environnement, en utility services, c'est-à-dire des sorts, des Veolia, des Suez, etc., on est vraiment les leaders mondiaux là-dessus. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que soit ces entreprises se font piquer la valeur par des plateformes qui viennent au-dessus et qui les désintermédient, soit elles deviennent elles-mêmes des entreprises et en réalité, elles n'y parviendront qu'avec de l'IA. Ouais. Parce que réussir à traiter les systèmes qu'elles traitent, c'est très compliqué. C'est vraiment pas, entre guillemets, du numérique traditionnel. Si vous voulez réussir à, je sais pas, par exemple, gérer des déchets à très grande volée, avec de la circularité, etc. Je vous assure, j'en parle d'ailleurs dans le livre pas mal, c'est assez compliqué, et je pense que ça serait fantastique d'arriver à tourner ce pays dans cette direction.
Bon, bien, en tout cas, si ces sujets vous intéressent, et ils vous intéressent certainement, hein, IA, le green, l'environnement, eh bien, je vous conseille cet ouvrage aux éditions Odile Jacob, Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat. En plus, ça a la particularité, mais ça, comme beaucoup de tes ouvrages, de se lire assez vite, assez simplement, et puis ça fait quand même réfléchir à pas mal de sujets. Merci Gilles.
C'était un
Gilles
plaisir.
Babinet d'être venu nous parler de ce livre, et puis à très bientôt pour un nouvel ouvrage, pour venir nous parler évidemment de tous les sujets que tu suis au sein du Conseil National du Numérique, mais aussi avec tes startups dans le monde de l'énergie, bien entendu.